dans ce nouveau magazine culturel consacré à la thématique de l'histoire de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Nous sommes pour ces prochaines minutes en compagnie de Philippe Alexandre. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Lorraine à Nancy et vous êtes notre invité après une première émission où vous nous avez expliqué un petit peu le parcours qui a amené la laïcité à venir prendre sa place au sein de la République et particulièrement sur le territoire des Vosges. Eh bien, nous aimerions poursuivre pour comprendre la création, la fondation de la Ligue de l'enseignement, qui d'ailleurs ne s'appellera pas la Ligue de l'enseignement, on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour l'heure, je voulais vous poser la question, puisque c'est quand même le personnage qui a été au centre de la création des Ligues de l'enseignement. Qui est Jean Massé ?
Alors, Jean Massé est ami d'éditeurs parisiens, donc on dit au départ, il vit en Alsace, hein, bien sûr, va ensuite aller à Paris pour organiser la Ligue, pour créer le cercle parisien. Hein. Et Jean Massé est un pédagogue, hein. Il y a une école de filles à Bebelenheim où il est, et il développe des méthodes, hein, pour les écoles de filles, publie également avec des éditeurs parisiens des ouvrages populaires, hein, et donc c'est surtout un activiste, quelqu'un qui est actif, hein, et qui travaille également pour différents journaux, différentes revues, hein, au niveau parisien.
Mais il fait partie des penseurs, il fait partie de ceux qui ont une vision de ce que peut être cette République et de comment il peut apporter une pierre à l'édifice.
Ah oui, donc c'est un républicain d'avant 1870. Hein, et évidemment, tout cela, ce citoyen libre, critique, dont on parlait tout à l'heure, hein, au sens d'Emmanuel Kant, hein, du philosophe allemand, hein, l'homme doit s'émanciper, penser par lui-même. Hein, et il faut lui en donner les moyens, entre autres par l'instruction et le développement chez lui de l'esprit critique. Hein, donc ce que l'on veut, c'est un citoyen adulte. Hein, voilà. Je parle pas encore des femmes, hein, parce que...
C'est quelque chose qui vient plus tard, en général.
Oui, plus tard, et lentement.
Alors, on va y revenir justement sur cet aspect, mais aussi on va voir comment ça va se développer, parce que là, on est encore dans les années 1870, et finalement, la fédération des œuvres laïques, que ce soit au niveau national ou ailleurs dans les départements, va se former à partir de quand et comment va-t-elle se former? Est-ce qu'il faut attendre déjà les lois de 1901 pour la création des associations? Comment ça se passe?
Oui, alors c'est sur la question difficile, mais qu'il faut absolument poser. La Ligue, au départ, est une organisation, une même pas une fédération, une confédération, donc ça va être beaucoup plus large, hein, d'entités éparses qui ne sont pas forcément exclusivement des cercles de la Ligue, mais également ce qu'on appelle des sociétés d'instruction populaire. Hein. Plus tard, on le verra, les œuvres sont extrêmement diversifiées, ça va jusqu'au sport, etc. Mais on n'en est pas encore là, hein, tant s'en faut. La Ligue est donc une organisation éparse. Et c'est avec son premier congrès parisien de 1881 qu'elle cherche à se doter d'une organisation.
Avant ça, il n'y avait pas ce besoin? Ou est-ce que justement, c'est quelque chose qui est venu progressivement au point de se dire qu'en 1880, il faut que ça se formalise pour qu'on ait une véritable reconnaissance au niveau national?
Alors, bien sûr, quel est le problème? Dans les Vosges et en Lorraine, de façon générale, on le sait, on est, bon, pour des raisons historiques, pour la décentralisation, hein, décentralisation intellectuelle. Hein, c'est ce que l'on retient de Jean Massé dans la presse vosgienne de la fin des années 1860, la décentralisation intellectuelle. Or, que se passe-t-il avec ce premier congrès de la Ligue en 1881? On assiste à des polémiques. Hein. La Ligue ne peut pas travailler sans la presse, sans les journalistes républicains. Il y a à Épinal un dénommé Édouard Sylvain, hein, qui est le rédacteur en chef du journal républicain d'Épinal, le Mémorial des Vosges, qui sera le délégué à ce premier congrès à Paris en 1881, et qui dit « On est en train de faire là une tentative de centralisation ». Nous la refusons. Nous sommes pour l'autonomie de chacune des composantes de la Ligue. Hein. Et ce qui est plus important, c'est les idées qui ont créé notre mouvement. Le lien doit être surtout l'idée pour laquelle nous nous battons, plus que la structure.
C'est en ce sens, il faut que la structure se forme autour de l'idée et pas qu'on amène l'idée dans la structure.
Absolument, absolument. Donc, on refuse la centralisation parisienne, hein, parce que la question qui s'est posée en 1881, c'est de savoir si le cercle parisien va devenir l'instance, hein, qui va finalement tout diriger. Et Jean Massé se rend bien compte qu'il faut rassurer et dire non, mon but n'est pas de dicter quoi que ce soit, hein, n'est pas d'enrégimenter, comme il disait. Hein. Donc, c'est ainsi que la Ligue, par la suite, hein, est restée une confédération, hein, donc un ensemble de structures diverses, éparses, hein, mais qui tenaient ensemble, hein, par l'idée qui était celle de l'instruction populaire, de l'émancipation du citoyen, l'émancipation d'esprit, la création d'un espace public critique. Voilà.
Donc ça, c'était le point de départ, et de cela, de cette ligue de l'enseignement, vont petit à petit naître, de cette confédération, vont petit à petit naître des fédérations.
Oui, alors ça...
Mais fédération des œuvres laïques, c'est le terme qui est employé,
oui,
à l'époque.
Alors ça, c'est beaucoup plus tard. Mm-hmm. Ça nous amène au congrès de la ligue dont on vient de parler.
Donc 1880.
Finalement, le lien de la ligue, c'est ce qu'on appelle donc... Alors, il y a un bureau, général à Paris, mais il y a aussi le congrès général. Hein. Je crois que la première manifestation qui a eu lieu, c'est le congrès régional de Nancy en 1880, mais qui s'est déjà cassé le nez, permettez-moi l'expression, hein, face à la résistance des membres des cercles qui disaient non, nous ne voulons rester autonomes.
Donc, il y avait cette volonté de non-centralisation.
Voilà. Mmh. Donc échec de ce congrès régional de Nancy en 1880, échec également de la tentative de décentralisation. Hein. Et on en restera là pendant des années. Mmh. Et c'est en 1925, si on peut faire ce grand bond, hein, mais il est quand même peut-être bon d'emblée de le préciser, en 1925, en décembre 25, le congrès de la Ligue décide de constituer une fédération des œuvres laïques.
Donc il aura fallu quand même plus de 40 ans.
Absolument.
Entre la volonté de faire quelque chose et trouver la bonne formule qui réponde à la fois à l'idée, à la pensée, à la dynamique,
voilà,
et à la fois aux besoins structurels.
Oui.
Eh bien Philippe Alexandre, vous restez avec nous, hein. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre sur cette thématique et dans la découverte de cette histoire pour la deuxième partie de notre magazine. Alors à tout de suite. Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour de l'histoire de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Nous sommes en compagnie de Philippe Alexandre, professeur émérite à l'Université de Lorraine à Nancy et qui a travaillé, œuvré pendant de nombreux mois pour retrouver un petit peu toutes les traces de cette histoire et les réunir dans une présentation. Présentation qui nous est faite et au cours de laquelle nous venons de découvrir donc qu'il a fallu quand même une quarantaine d'années pour aboutir à la Fédération des œuvres laïques. Alors, je voudrais quand même vous poser la question, pourquoi le choix de ce nom Fédération des œuvres laïques.
Pourquoi Fédération des œuvres laïques ? C'est parce que durant toute cette période que vous évoquez, ces décennies, les œuvres de la Ligue se sont considérablement diversifiées.
Et il faut rappeler qu'on a parlé de 1881, on a parlé de 1866 avec la première publication de Jean Massé. Entre-temps, il y a des événements politiques importants, puisqu'il y a la guerre de 1870.
Tout à fait.
On va parler de 1925, mais il y a eu aussi une guerre mondiale qui implique encore la France et l'Allemagne. Donc, il y a peut-être aussi une volonté de trouver une manière de mieux gérer ces potentiels conflits.
Oui, je pense que la Ligue s'est recentrée sur d'autres activités, parce que, comme vous le dites, il est passé de l'eau sous les ponts entre-temps. La République s'est installée petit à petit avec beaucoup de difficultés.
Oui, parce qu'on est sorti du Second Empire.
Et il y a eu Jules Ferry, qu'il ne faut pas oublier.
Quel a été son rôle à Jules Ferry dans tout ça ?
Alors, Jules Ferry était proche de la Ligue. Il assistait parfois aux distributions des prix de l'école de filles du cercle d'Épinal. Il a prononcé des discours qui sont assez importants, hein, dans lesquels il a souligné le rôle de la femme dans l'éducation du futur citoyen. Donc la femme a besoin d'instruction, travaillons à l'instruction de la femme. Je ne dis pas qu'il s'agit d'émanciper la femme, mais il s'agit de lui donner une instruction pour que, instrument de l'éducation des futurs citoyens, elle remplisse sa tâche de façon efficace.
On ne parle pas encore de donner le droit de vote, on ne parle pas encore d'égalité femmes-hommes.
Non, c'est très très lent. Il y a des écoles... L'école laïque, qu'on appellera aussi école publique, etc., est évidemment, avec les lois Ferry sur lesquelles on n'est pas obligé de s'étendre, mais quand même de rappeler que la République a rendu, avec la loi du 28 mars 1882, l'école laïque gratuite et obligatoire. Je dirais que si elle est obligatoire, c'est-à-dire que tous les petits Français vont sur les mêmes bancs de l'école se retrouver les uns à côté des autres, donc il faut une école laïque, c'est-à-dire une école neutre. Et Jules Ferry insiste là-dessus. Neutre, c'est-à-dire ce qui permet le vivre ensemble.
Donc, une école qui va permettre à tous les enfants du territoire français de recevoir également la même éducation ?
Oui, enfin, c'est le but.
C'est le vœu pieux.
C'est le vœu pieux, si on peut dire, oui. C'est le vœu pieux. Et il y aura bien sûr tous les débats que l'on connaît. On n'est pas obligé d'entrer évidemment dans toutes les polémiques, la résistance évidemment de l'Église catholique face à cette évolution qui, elle, dans les Vosges comme ailleurs, s'oppose à l'école, on connaît l'expression, l'école sans Dieu. Mais Jules Ferry, à Épinal, en 1880, a dit « l'école laïque signifie école neutre, qui n'est pas une école contre » la religion, mais à côté de la religion, qui fait abstraction de la religion.
On est en quelle année, là ?
1880. C'est un discours dont les paroles seront souvent reprises ensuite lors de discours ou de cérémonies ultérieures. L'école neutralité ne signifie pas être contre les cultes, contre les croyances, contre les convictions des jeunes, mais simplement leur donner la possibilité d'acquérir une instruction, une intelligence dans le sens donc d'une intelligence critique.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un petit peu la dynamique qui a animé les fondateurs de la laïcité, c'est de se dire le but n'est pas d'être contre la religion, mais d'être entre guillemets en marge de la religion.
Oui, absolument.
Est-ce que c'est la bonne formulation ?
Absolument, surtout chez Jules Ferry qui a pour préoccupation l'unité de la nation. Pour lui, l'âme, ce qu'il appelle l'âme de la France, doit transcender tout cela, ce qu'il appelle les diversités religieuses. Et sa crainte, lui, le républicain modéré, opportuniste, comme on dit à cette époque, qui est plus souple, plus réaliste, qui est prêt à s'adapter, pour lui, ce qui est important, c'est d'asseoir la République sur une nation unie, et qui a conscience, donc, qui a des valeurs communes, et qui doit donc éviter toute guerre civile, tout conflit permanent, etc. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, donc, il s'agit de ne pas s'inscrire, donc, contre.
À amener la laïcité sans être une opposition à la religion parce que culturellement, les Français sont attachés à leur religion à cette époque-là. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Suivant les régions, c'est assez variable. Mais si on considère, par exemple, la Bretagne ou l'Alsace, etc., il y a un attachement profond à la religion. Donc, je pense que... Connaissant un peu Jules Ferry, je pense qu'il avait conscience du fait que le non-respect de cette neutralité pouvait amener des réactions et choquer.
Et briser l'unité.
Voilà, c'est ça, briser cette unité qu'il entend ou espère pouvoir instaurer dans le pays.
Alors là, on est encore dans les années 1800, mais j'imagine que l'école va encore progresser dans son histoire et je vous propose qu'on puisse revenir sur cette histoire de l'école libre laïque dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine sur ces ondes. Alors à tout de suite sur notre antenne. Troisième troisième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour de la Ligue de l'enseignement des Vosges et de son histoire. À notre micro, Philippe Alexandre, qui est, je le rappelle, professeur émérite à l'Université de Lorraine à Nancy et qui a dressé toute l'histoire de cette Ligue de l'enseignement qui fêtait en 2023 ses 90 ans. Alors avec vous, Philippe Alexandre, nous avons parlé il y a de cela quelques minutes de l'histoire de l'école libre laïque et j'imagine qu'on était dans les années 1800, donc cette école libre laïque va, j'imagine, encore se développer.
Alors, je dirais que les cercles ont connu des fortunes diverses, hein, si je veux en revenir donc à ce grand mouvement. Il y a des conférences populaires auxquelles les femmes participent, nombreuses, hein, qui sont membres des cercles qui se sont créés dans les années 80 jusque dans les années 1900 dans les Vosges, à Neuchâteau par exemple. À Neuchâteau, où le député, monsieur de Pont-le-Voix, et les notables, des maires de communes, etc., hein, soutiennent le mouvement. Donc, il y a des conférences sur des sujets extrêmement divers, souvent sur la Révolution française, il faut bien le dire, sur des figures nationales importantes telles que Victor Hugo, hein, mais également, influence du positivisme, on traite des sujets scientifiques, hein, l'électricité, par exemple, qui joue un rôle si important lors des expositions universelles, voilà, l'électricité, c'est un sujet de conférence. Hein. Il y a également des sujets patriotiques. Hein. Le patriotisme joue dans cette affaire une. Hein, vous parliez tout à l'heure des guerres, il faut insister. Hein. Il y a un mouvement au sein de la Ligue qui montre bien que beaucoup sont également des citoyens, évidemment, émancipés, mais également patriotes.
Patriote et engagé.
Et engagé, ça c'est un élément important. Alors évidemment, on a peut-être oublié cette dimension-là. Hein. N'oublions pas que la devise de la Ligue, au départ, a été pour la patrie, par l'instruction et par l'épée. Mmh. Et sous l'influence de quelqu'un qui a joué un rôle important dans les Vosges, c'était Émile Georges. Émile Georges, qui a été le préfet chassé par les Allemands en 1870, hein, et qui est devenu sénateur, et qui va jouer lors des congrès de la Ligue dans les années 1880 un rôle important. Hein, les fameux bataillons scolaires, l'introduction de la gymnastique obligatoire dans les écoles, etc. Ça, c'est à un Vosgien, Émile Georges, qu'on le doit. Hein, donc, faut pas non plus occulter cette dimension.
Cet aspect-là. Et donc tout cela va nous amener progressivement, on va s'approcher, le XXe siècle débute, 1900-1901, etc. Et comment se développe la laïcité? Comment se développent les cercles?
Alors les cercles connaissent des difficultés. Celui d'Épinal, par exemple, est en sommeil pendant une dizaine d'années. Celui d'Épinal a été dirigé par Arthur Florillon. Arthur Florillon, qui est un notable d'Épinal, négociant, industriel, qui est à l'origine de la naissance de la chambre de commerce, du tribunal de commerce à Épinal, qui sera maire d'Épinal en 1881, qui démissionnera en 1883 parce qu'il espérait pouvoir transformer le collège en lycée. Il n'y a pas réussi, donc il a démissionné de ses fonctions, a été ensuite élu conseiller général. Florillon, qui est l'âme, qui incarne en quelque sorte le cercle de la Ligue de l'enseignement durant toutes ces années, décède en 1900. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'école libre, laïque, de filles entretenues par le cercle à Épinal, disparaît parce que Jules Ferry, dont nous avons largement parlé, a développé l'enseignement pour les garçons comme pour les filles. Donc, cette école du cercle fait un peu double emploi. Et puis on constate d'autre part que les cotisations rentrent mal à une certaine époque. Hein. Donc c'est sous le mandat du maire Julliard, monsieur Julliard, qui est un industriel très impliqué dans le cercle de la Ligue à Épinal, hein, qui va transformer en 1899 l'école de filles du cercle en école primaire supérieure de filles. Hein, voilà. Mais pendant 10 ans, il ne se passe rien. Et dans un contexte préélectoral, les radicaux étant devenus forts dans le département des Vosges, réveillent le cercle d'Épinal. Hein, avec quelqu'un qui est connu dans les Vosges, c'est Abel Ferry. Hein. Le nom Ferry signifie quelque chose.
Hein. Il résonne.
Voilà. Et c'est ainsi que le 5 décembre 1909 se reconstitue le cercle de la Ligue à Épinal. Avec, évidemment, entre-temps, une évolution qui est liée au fait que les républicains plus souples, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appellent progressistes, hein, ou opportunistes, etc., ou libéraux encore, donc se séparent, il y a eu l'affaire Dreyfus, etc., mais on ne peut pas aller dans tous ces détails, mais quand même, ces bisbilles entre les républicains jouent un rôle tout à fait important. Hein, ce sont les radicaux qui l'emportent. Hein. Et dans ce nouveau cercle de l'enseignement, avant la guerre 14, à Épinal, eh bien, on s'aperçoit que les députés radicaux, à Belferry évidemment, Paul Cuny, sous l'influence d'Armand Lederlin, l'industriel qui lui est très engagé, à Taon et de façon générale dans le cercle, les activités du cercle d'Épinal, Armand Lederlin a une influence tout à fait considérable. Donc ce sont ces radicaux qui, avec certains membres de l'ancien cercle, vont créer la ligue rénovée à Épinal.
Voilà donc ce qui explique la création de la Ligue de l'enseignement dans les Vosges, même si elle ne portait pas encore ce nom à l'époque. Et nous étions là en compagnie de Philippe Alexandre, professeur émérite à l'Université de Lorraine à Nancy. Vous allez rester avec nous puisqu'on va se retrouver dans une prochaine émission pour poursuivre autour de cette thématique, découvrir ensuite comment, depuis sa formation, elle a pu évoluer à travers ses 90 années d'existence. Et donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission sur cette même antenne. Je vous dis à très bientôt.
À bientôt.
Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle que ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet. Vous tapez radiocristal.org, vous choisissez l'onglet podcast et la rubrique l'invité. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur cette même fréquence pour évoquer une toute nouvelle thématique.